Chapitre 3. Tannhäuser représente la lutte des deux principes qui ont choisi le cœur humain pour principal champ de bataille, c'est-à-dire de la chair avec l'esprit, de l'enfer avec le ciel, de Satan avec Dieu. Et cette dualité qui est représentée tout de suite par l'ouverture, avec une incomparable habileté, que n'a-t-on déjà écrit sur ce morceau ? Cependant, il est présumable qu'il fournira encore matière à bien des thèses et des commentaires éloquents, car c'est le propre des œuvres vraiment artistiques d'être une source inépuisable de suggestions. L'ouverture, dis-je, résume donc la pensée du drame par deux chants, le chant religieux et le chant voluptueux, qui, pour me servir de l'expression de Liszt, sont ici posés comme deux termes qui, dans le final, trouvent leur équation. Le chant des pèlerins apparaît le premier, avec l'autorité de la loi suprême, comme marquant tout de suite le véritable sens de la vie, le but de l'universel pèlerinage, c'est-à-dire Dieu. Mais comme le sens intime de Dieu est bientôt noyé dans toute conscience par la concupiscence de la chair, le chant représentatif de la sainteté est peu à peu submergé par les soupirs de la volupté. La vraie, la terrible, l'universelle Vénus se dresse déjà dans toutes les imaginations. Et que celui qui n'a pas encore entendu la merveilleuse ouverture du Tannhäuser ne se figure pas ici un chant d'amoureux vulgaire, essayant de tuer le temps sous la tonnelle, les accents d'une troupe enivrée jetant à Dieu son défi dans la langue d'Horace. Il s'agit d'autre chose, à la fois plus vraie et plus sinistre. Langueur, délice mêlée de fièvre et coupée d'angoisse, retour incessant vers une volupté qui promet d'éteindre, mais n'éteint jamais la soif. Palpitation furieuse du cœur et des sens, ordre impérieux de la chair, tout le dictionnaire des onomatopées de l'amour se fait entendre ici. Enfin, le thème religieux reprend peu à peu son empire, lentement, par gradation, et absorbe l'autre dans une victoire paisible, glorieuse comme celle de l'être irrésistible sur l'être maladif et désordonné, de Saint Michel sur Lucifer. Au commencement de cette étude, j'ai noté la puissance avec laquelle Wagner, dans l'ouverture de Lohengrin, avait exprimé les ardeurs de la mysticité, les appétitions de l'esprit vers le Dieu incommensurable. Dans l'ouverture de Tannhäuser, dans la lutte des deux principes contraires, il ne s'est pas montré moins subtil ni moins puissant. Où donc le maître a-t-il puisé ce chant furieux de la chair, cette connaissance absolue de la partie diabolique de l'homme? Dès les premières mesures, les nerfs vibrent à l'unisson de la mélodie. Toute chair qui se souvient se met à trembler. Tout cerveau bien conformé porte en lui deux infinis, le ciel et l'enfer. Et dans toute image de l'une de ces infinis, il reconnaît subitement la moitié de lui-même. Aux titillations sataniques d'un vague amour succèdent bientôt des entraînements, des éblouissements, des cris de victoire, des gémissements de gratitude et puis des hurlements de férocité, des reproches de victime, des hosanna impies de sacrificateur, comme si la barbarie devait toujours prendre sa place dans le drame de l'amour, et la jouissance charnelle conduire, par une logique satanique inéluctable, aux délices du crime. Quand le thème religieux, faisant invasion à travers le mal déchaîné, vient peu à peu rétablir l'ordre et reprendre l'ascendant, quand il se dresse de nouveau avec toute sa solide beauté au-dessus de ce chaos de volupté agonisante, toute l'âme éprouve comme un rafraîchissement, une béatitude de rédemption. Sentiment ineffable qui se reproduira au commencement du deuxième tableau, quand Tannhäuser, échappé de la grotte de Vénus, se retrouvera dans la vie véritable, entre le son religieux des cloches natales, la chanson native du pâtre, l'hymne des pèlerins et la croix plantée sur la route, emblème de toutes ces croix qu'il faut traîner sur toutes les routes. Dans ce dernier cas, il y a une puissance de contraste qui agit irrésistiblement sur l'esprit, et qui fait penser à la manière large et aisée de Shakespeare. Tout à l'heure, nous étions dans les profondeurs de la terre. Vénus, comme nous l'avons dit, habite auprès de l'enfer, respirant une atmosphère parfumée, mais étouffante, éclairée par une lumière rose qui ne venait pas du soleil. Nous étions semblables au chevalier Tannhäuser lui-même, qui, saturée de délices énervantes, aspire à la douleur. Cri sublime que tous les critiques jurés admiraient dans Corneille, mais qu'aucun ne voudra peut-être voir dans Wagner. Enfin, nous sommes replacés sur la terre. Nous en aspirons l'air frais, nous en acceptons les joies avec reconnaissance, les douleurs avec humilité. La pauvre humanité est rendue à sa patrie. Tout à l'heure, en essayant de décrire la partie voluptueuse de l'ouverture, je priais le lecteur de détourner sa pensée des hymnes vulgaires de l'amour, tels que les peut concevoir un galant en belle humeur. En effet, il n'y a rien ici de trivial. C'est plutôt le débordement d'une nature énergique qui verse dans le mal toutes les forces dues à la culture du bien. C'est l'amour effréné, immense, chaotique, élevé jusqu'à la hauteur d'une contre-religion, d'une religion satanique. Ainsi, le compositeur, dans la traduction musicale, a échappé à cette vulgarité qui accompagne trop souvent la peinture du sentiment le plus populaire, j'allais dire populacier. Et pour cela, il lui a suffi de peindre l'excès dans le désir et dans l'énergie. L'ambition indomptable, immodérée d'une âme sensible qui s'est trompée de voix. De même, dans la représentation plastique de l'idée, il s'est dégagé heureusement de la fastidieuse foule de victimes, des Elvires innombrables. L'idée pure, incarnée dans l'unique Vénus, parle bien plus haut, avec bien plus d'éloquence. Nous ne voyons pas ici un libertin ordinaire, voltigeant de belle en belle, mais l'homme général, universel, vivant morganatiquement avec l'idéal absolu de la volupté, avec la reine de toutes les diablesses, de toutes les finesses et de toutes les satiresses, reléguée sur la terre depuis la mort du grand Pan, c'est-à-dire avec l'indestructible et irrésistible Vénus. Une main mieux exercée que la mienne dans l'analyse des ouvrages lyriques présentera, ici même, au lecteur, un compte rendu technique et complet de cet étrange et méconnu Tannhäuser. Je dois donc me borner à des vues générales qui, pour rapides qu'elles soient, n'en sont pas moins utiles. D'ailleurs, n'est-il pas plus commode pour certains esprits de juger de la beauté d'un paysage en se plaçant sur une hauteur, qu'en parcourant successivement tous les sentiers qu'elle sillonne? Je tiens seulement à faire observer, à la grande louange de Wagner, que, malgré l'importance très juste qu'il donne au poème dramatique, l'ouverture de Tannhäuser, comme celle de Lohengrin, est parfaitement intelligible, même à celui qui ne connaîtrait pas le livret. Et ensuite, que cette ouverture contient non seulement l'idée mère, la dualité psychique constituant le drame, mais encore les formules principales nettement accentuées, destinées à peindre les sentiments généraux exprimés dans la suite de l'œuvre, ainsi que le démontrent les retours forcés de la mélodie diaboliquement voluptueuse et du motif religieux ou chant des pèlerins, toutes les fois que l'action le demande. Quant à la grande marche du second acte, elle a conquis depuis longtemps le suffrage des esprits les plus rebelles, et l'on peut lui abdiquer le même éloge qu'aux deux ouvertures dont j'ai parlé, à savoir d'exprimer de la manière la plus visible, la plus colorée, la plus représentative, ce qu'elle veut exprimer. Qui donc, en entendant ces accents si riches et fiers, ce rythme pompeux, élégamment cadencé, ces fanfares royales pourraient se figurer autre chose qu'une pompe féodale, une défilade d'hommes héroïques dans des vêtements éclatants, tous de haute stature, tous de grande volonté et de foi naïve, aussi magnifiques dans leurs plaisirs que terribles dans leur guerre. Que dirions-nous du récit de Tannhäuser, de son voyage à Rome, où la beauté littéraire est si admirablement complétée et soutenue par la mélopée, que les deux éléments ne font qu'un inséparable tout? On craignait la longueur de ce morceau, et cependant le récit contient, comme on l'a vu, une puissance dramatique invincible. La tristesse, l'accablement du pêcheur pendant son rude voyage, son allégresse en voyant le suprême pontife qui délie les péchés, son désespoir quand celui-ci lui montre le caractère irréparable de son crime, et enfin, le sentiment presque ineffable, tant il est terrible, de la joie dans la damnation. Tout est dit, exprimé, traduit par la parole et la musique d'une manière si positive qu'il est presque impossible de concevoir une autre manière de le dire. On comprend bien alors qu'un pareil malheur ne puisse être réparé que par un miracle, et on excuse l'infortuné chevalier de chercher encore le sentier mystérieux qui conduit à la grotte pour retrouver au moins les grâces de l'enfer auprès de sa diabolique épouse. La dame de Lohengrin porte, comme celui de Tannhäuser, le caractère sacré, mystérieux et pourtant universellement intelligible de la légende. Une jeune princesse, accusée d'un crime abominable, du meurtre de son frère, ne possède aucun moyen de prouver son innocence. Sa cause sera jugée par le jugement de Dieu. Aucun chevalier présent ne descend pour elle sur le terrain, mais elle a confiance en une vision singulière. Un guerrier inconnu est venu la visiter en rêve. C'est ce chevalier-là qui prendra sa défense. En effet, au moment suprême, et comme chacun la juge coupable, une nacelle approche du rivage, tirée par un signe attelé d'une chaîne d'or. Lohengrin, chevalier du Saint Graal, protecteur des innocents, défenseur des faibles, a entendu l'invocation du fond de la retraite merveilleuse où est précisément conservée cette coupe divine, deux fois consacrée par la Sainte Seine et par le sang de notre Seigneur, que Joseph d'Arimathie recueillit tout ruisselant de sa plaie. Lohengrin, fils de Parsifal, descend de la nacelle, revêtu d'une armure d'argent, le casque en tête, le bouclier sur l'épaule, une petite trompe d'or au côté, appuyé sur son épée. « Si je remporte pour toi la victoire, » dit Lohengrin à Elsa, « veux-tu que je sois ton époux ?»« Elsa, si tu veux que je m'appelle ton époux, il faut que tu me fasses une promesse. Jamais tu ne m'interrogeras, jamais tu ne chercheras à savoir ni de quelle contrée j'arrive, ni quel est mon nom et ma nature. » Et Elsa, « jamais, Seigneur, tu n'entendras de moi cette question. » Et comme Lohengrin répète solennellement la formule de la promesse, Elsa répond, « Mon bouclier, mon ange, mon sauveur, toi qui crois fermement à mon innocence, pourrait-il y avoir un doute plus criminel que de n'avoir pas foi en toi ? Comme tu me défends dans ma détresse, de même je garderai fidèlement la loi que tu m'imposes. » Et Lohengrin, la serrant dans ses bras, s'écrie, « Elsa, je t'aime !» Il y a là une beauté de dialogue comme il s'en trouve fréquemment dans les drames de Wagner, toute tempérée de magie primitive, toute grandie par le sentiment idéal, et dont la solennité ne diminue en rien la grâce naturelle. L'innocence d'Elsa est proclamée par la victoire de Lohengrin. La magicienne Ortrud et Frédéric, deux méchants intéressés à la condamnation d'Elsa, parviennent à exciter en elle la curiosité féminine, à flétrir sa joie par le doute, et l'obsède maintenant jusqu'à ce qu'elle viole son serment et exige de son époux l'aveu de son origine. Le doute a tué la foi, et la foi disparue emporte avec elle le bonheur. Lohengrin punit par la mort Frédéric d'un guet-apens que celui-ci lui a tendu, et devant le roi, les guerriers et le peuple assemblé déclarent enfin sa véritable origine. « Quiconque est choisi pour servir le Graal est aussitôt revêtu d'une puissance surnaturelle. » Même celui qui est envoyé par lui dans une terre lointaine, chargé de la mission de défendre le droit de la vertu, n'est pas dépouillé de sa force sacrée autant que reste inconnue sa qualité de chevalier du Graal. Mais telle est la nature de cette vertu du Saint Graal que, dévoilée, elle fuit aussitôt les regards profanes. C'est pourquoi vous ne devez concevoir nul doute sur son chevalier. S'il est reconnu par vous, il lui faut vous quitter sur le champ. Le cygne reparaît sur la rive pour ramener le chevalier vers sa miraculeuse patrie. La magicienne, dans l'infatuation de sa haine, dévoile que le cygne n'est autre que le frère d'Elsa, emprisonné par elle dans un enchantement. Lohengrin monte dans la nacelle, après avoir adressé au Saint Graal une fervente prière. La colombe prend la place du cygne, et Godefroy, duc de Brabant, reparaît. Le chevalier est retourné vers le mont Salva, Elsa qui a douté, Elsa qui a voulu savoir, examiner, contrôler, Elsa a perdu son bonheur, l'idéal est envolé. Le lecteur a sans doute remarqué dans cette légende une frappante analogie avec le mythe de la Psyché antique, qui, elle aussi, fut victime de la démoniaque curiosité et, ne voulant pas respecter l'incognito de son divin époux, perdit, en pénétrant le mystère, toute sa félicité. Elsa prête l'oreille à Ortrude comme Ève au serpent. L'Ève éternelle tombe dans l'éternel piège. Les nations et les races se transmettent-elles des fables comme les hommes se lèguent des héritages, des patrimoines ou des secrets scientifiques? On serait tenté de le croire, tant est frappante l'analogie morale qui marque les mythes et les légendes éclos dans différentes contrées. Mais cette explication est trop simple pour séduire longtemps un esprit philosophique. L'allégorie créée par le peuple ne peut pas être considérée à ses semences qu'un cultivateur communique fraternellement à un autre qui le veut acclimater dans son pays. Rien de ce qui est éternel et universel n'a besoin d'être acclimaté. Cette analogie morale dont je parlais est comme l'estampille divine de toutes les fables populaires. Ce sera bien, si l'on veut, le signe d'une origine unique, la preuve d'une parenté irréfragable, mais à condition que l'on ne cherche cette origine que dans le principe absolu et l'origine commune de tous les êtres. Tel mythe peut être considéré comme frère d'un autre, de la même façon que le nègre est dit frère du blanc. Je ne nie pas, en de certains cas, la fraternité ni la filiation. Je crois seulement que dans beaucoup d'autres, l'esprit pourrait être induit en erreur par la ressemblance des surfaces ou même par l'analogie morale et que, pour reprendre notre métaphore végétale, le mythe est un arbre qui croît partout, en tout climat, sous tout soleil, spontanément et sans bouture. Les religions et les poésies des quatre parties du monde nous fournissent sur ce sujet des preuves surabondantes. Comme le péché est partout, la rédemption est partout, le mythe partout. Rien de plus cosmopolite que l'éternel. Qu'on veuille bien me pardonner cette digression qui s'est ouverte devant moi avec une attraction irrésistible, je reviens à l'auteur de Lohengrin. On dirait que Wagner aime d'un goût de prédilection les pompes féodales, les assemblées homériques où gît une accusation de force vitale, les foules enthousiasmées, réservoirs d'électricité humaine, d'où le style héroïque jaillit avec une impétuosité naturelle. La musique de noces et l'épitaphalam de Lohengrin font un digne pendant à l'introduction des invités au Wartburg dans Tannhäuser. Plus majestueux encore peut-être et plus véhément. Cependant, le maître, toujours plein de goût et attentif aux nuances, n'a pas représenté ici la turbulence qu'en pareil cas manifesterait une foule roturière. Même à l'apogée de son plus violent tumulte, la musique n'exprime qu'un délire de gens accoutumés aux règles de l'étiquette. C'est une cour qui s'amuse, et son ivresse la plus vive garde encore le rythme de la décence. La joie clapoteuse de la foule alterne avec l'épitaphalam, doux, tendre et solennel. La tourmente de l'allégresse publique contraste à plusieurs reprises avec l'hymne discret et attendri que célèbre l'union d'Elsa et de Lohengrin. J'ai déjà parlé de certaines phrases mélodiques dont le retour assidu dans différents morceaux tirés de la même œuvre avait vivement intrigué mon oreille. Lors du premier concert offert par Wagner dans la salle des Italiens, nous avons observé que, dans Tannhäuser, la récurrence des deux thèmes principaux, le motif religieux et les chants de volupté, servaient à réveiller l'attention du public et à le replacer dans un état analogue à la situation actuelle. Dans Lohengrin, ce système mnémonique est appliqué beaucoup plus minutieusement. Chaque personnage est, pour ainsi dire, blasonné par la mélodie qui représente son caractère moral et le rôle qui est appelé à jouer dans la fable. Ici, je laisse humblement la parole à Liszt, dont, par occasion, je recommande le livre « Lohengrin et Tannhäuser » à tous les amateurs de l'art profond et raffiné, et qui sait, malgré cette langue un peu bizarre qui l'affecte, espèce d'idiome composé d'extraits de plusieurs langues, traduire avec un charme infini toute la rhétorique du maître. Citation. Le spectateur, préparé et résigné à ne chercher aucun de ces morceaux détachés qui, engrainés l'un après l'autre sur le fil de quelque intrigue, composent la substance de nos opéras habituels, pourrait trouver un singulier intérêt à suivre durant trois actes la combinaison profondément réfléchie étonnamment habile et poétiquement intelligente avec laquelle Wagner, au moyen de plusieurs phrases principales, a serré un nœud mélodique qui constitue tout son drame. Les replis que font ces phrases en se lisant et s'entrelaçant autour des paroles du poème sont d'un effet émouvant au dernier point. Mais si, après en avoir été frappé et impressionné à la représentation, on veut encore se rendre mieux compte de ce qui a été si vivement affecté et étudier la partition de cette œuvre d'un genre si neuf, on reste étonné de toutes les intentions et nuances qu'elle renferme et qu'on ne saurait immédiatement saisir. Quels sont les drames et les épopées de grands poètes qu'il ne faille pas longtemps étudier pour se rendre maître de toute leur signification? Wagner, par un procédé qu'il applique d'une manière tout à fait imprévue, réussit à étendre l'empire et la prétention de la musique. Peu content du pouvoir qu'elle exerce sur les cœurs, en y réveillant toute la gamme des sentiments humains, il lui rend possible d'inciter nos idées, de s'adresser à notre pensée, de faire appel à notre réflexion et de la doter d'un sens moral et intellectuel. Il dessine mélodiquement le caractère de ses personnages et de leurs passions principales, et ses mélodies ne font jour, dans le chant ou dans l'accompagnement, chaque fois que les passions et les sentiments qu'elles expriment sont mis en jeu. Cette persistance systématique est jointe à un art de distribution qui offrirait, par la finesse des aperçus psychologiques, poétiques et philosophiques dont il fait preuve, un intérêt de haute curiosité à ceux aussi pour qui les croches et double croches sont lettres mortes et purs hiéroglyphes. Wagner, forçant notre méditation et notre mémoire à un si constant exercice, arrache par cela seul l'action de la musique au domaine des vagues attendrissements et ajoute à ses charmes quelques-uns des plaisirs de l'esprit. Par cette méthode qui complique les faciles jouissances procurées par une série de chants rarement apparentés entre eux, il demande une singulière attention du public, mais en même temps, il prépare de plus parfaites émotions à ceux qui savent les goûter. Ces mélodies sont, en quelque sorte, des personnifications d'idées. Leur retour annonce celui des sentiments que les paroles qu'on prononce n'indiquent point explicitement. C'est à elles que Wagner confie de nous révéler tous les secrets du cœur. Il est des phrases, celles par exemple de la première scène du second acte, qui traversent l'opéra comme un serpent venimeux, s'enroulant autour des victimes et fuyant devant leur saint défenseur. Il en est comme celles de l'introduction qui ne reviennent que rarement avec les suprêmes et divines révélations. Les situations ou les personnages de quelque importance sont tous musicalement exprimés par une mélodie qui en devient le constant symbole. Or, comme ces mélodies sont d'une rare beauté, nous dirons à ceux qui, dans l'examen d'une partition, se bornent à juger des rapports de croche et double croche entre elles, que même si la musique de cet opéra devait être privée de son beau texte, elle serait encore une production de premier ordre. Fin de citation. En effet, sans poésie, la musique de Wagner serait encore une œuvre poétique, étant douée de toutes les qualités qui constituent une poésie bien faite, explicative par elle-même, tant toutes choses y sont bien unies, conjointes, réciproquement adaptées, et s'il est permis de faire un barbarisme pour exprimer le superlatif d'une qualité, prudemment concaténée. Le vaisseau fantôme ou le Hollandais volant est l'histoire si populaire de ce juif errant de l'océan pour qui, cependant, une condition de rédemption a été obtenue par un ange secourable. Si le capitaine qui mettra pied à terre tous les 7 ans y rencontre une femme fidèle, il sera sauvé. L'infortuné, repoussé par la tempête à chaque fois qu'il voulait doubler un cap dangereux, s'était écrié une fois « Je passerai cette infranchissable barrière, dussé-je lutter toute l'éternité !» Et l'éternité avait accepté le défi de l'audacieux navigateur. Depuis lors, le fatal navire s'était montré çà et là, dans différentes plages, courant sus la tempête avec le désespoir d'un guerrier qui cherche la mort. Mais toujours la tempête l'épargnait, et le pirate lui-même se sauvait devant lui en faisant le signe de la croix. Les premières paroles du Hollandais, après que son vaisseau est arrivé au mouillage, sont sinistres et solennelles. « Le terme est passé. Il s'est encore écoulé 7 années. La mer me jette à terre avec dégoût. Ah, orgueilleux océan, dans peu de jours il te faudra me porter encore. Nulle part une tombe, nulle part la mort, telle est ma terrible sentence de damnation. Jour du jugement, jour suprême, quand luiras-tu dans ma nuit? À côté du terrible vaisseau, un navire norvégien a jeté l'ancre. Les deux capitaines lient connaissance, et le Hollandais demande au Norvégien de lui accorder pour quelques jours l'abri de sa maison, de lui donner une nouvelle patrie. Il lui offre des richesses énormes dont celui-ci s'éblouit, et enfin lui dit brusquement « As-tu une fille? Qu'elle soit ma femme. Jamais je n'atteindrai ma patrie. À quoi me sert donc d'amasser des richesses? Laisse-toi convaincre, consens à cette alliance, et prends tous mes trésors. » « J'ai une fille, belle, pleine de fidélité, de tendresse, de dévouement pour moi. Qu'elle conserve toujours à son père cette tendresse filiale, qu'elle lui soit fidèle. Elle sera aussi fidèle à son époux. Tu me donneras des joyaux, des perles inestimables, mais le joyau le plus précieux, c'est une femme fidèle. C'est toi qui me le donnes? Verrai-je ta fille dès aujourd'hui? » Dans la chambre du Norvégien, plusieurs filles s'entretiennent du Hollandais volant. Et Senta, possédée d'une idée fixe, les yeux toujours tendus vers un portrait mystérieux, chante la ballade qui retrace la damnation du navigateur. Avez-vous rencontré en mer le navire à la voile rouge de sang, au manoir? À bord, l'homme pâle, le maître du vaisseau, veille sans relâche. Il vole et fuit sans terme, sans relâche, sans repos. Un jour pourtant, l'homme peut rencontrer la délivrance. S'il trouve sur terre une femme qui lui soit fidèle jusque dans la mort. Priez le ciel que bientôt une femme lui garde sa foi. Par un vent contraire, dans une tempête furieuse, il voulut autrefois doubler un cap. Il blasphéma dans sa folle audace. Je n'y renoncerai pas de l'éternité. Satan l'a entendu, il l'a pris au mot. Et maintenant son arrêt est d'errer à travers la mer sans relâche, sans repos. Et pour que l'infortuné puisse rencontrer encore la délivrance sur terre, un ange de Dieu lui annonce d'où peut lui venir le salut. Ah, puisses-tu le trouver, pâle navigateur? Priez le ciel que bientôt une femme lui garde cette foi. Tous les 7 ans, il jette l'ancre, et pour chercher une femme, il descend à terre. Il a courtisé tous les 7 ans, et jamais encore il n'a trouvé une femme fidèle. Les voiles au vent, levez l'ancre, faux amours, faux serments, alerte, en mer, sans relâche, sans repos. Et tout d'un coup, sortant d'un abîme de rêverie, Senta inspiré s'écrie. Que je sois celle qui te délivrera par sa fidélité, puisse l'ange de Dieu me montrer à toi. C'est par moi que tu obtiendras ton salut. L'esprit de la jeune fille est attiré magnétiquement par le malheur, son vrai fiancé. C'est le capitaine damné que l'amour seul peut racheter. Enfin, le Hollandais paraît, présenté par le père de Senta. Il est bien l'homme du portrait, la figure légendaire suspendue au mur, quand le Hollandais, semblable au terrible Melmoth, attendrit la destinée d'immoler sa victime, veut la détourner d'un dévouement trop périlleux, quand le damné, plein de pitié, repousse l'instrument du salut, quand, remontant en toute hâte sur son navire, il la veut lasser au bonheur de la famille et de l'amour vulgaire, celle-ci résiste et s'obstine à le suivre. « Je te connais bien, je connais ta destinée, je te connaissais lorsque je t'ai vu pour la première fois. » Et lui, espérant l'épouvanter, « Interroge les mers de toutes les zones, interroge le navigateur qui a sillonné l'océan dans tous les sens. Il connaît ce vaisseau. L'effroi des hommes pieux. On me nomme le Hollandais volant. » Elle répond, poursuivant son dévouement et de ses cris le navire qui s'éloigne. Gloire à ton ange libérateur, gloire à sa loi. Regarde et vois si je se suis fidèle jusqu'à la mort. Et elle se précipite à la mer. Le navire s'engloutit, deux formes aériennes s'élèvent au-dessus des flots. C'est le Hollandais et Senta transfigurée. Aimer le malheur pour son malheur est une idée trop grande pour tomber ailleurs que dans un cœur ingénu. Et c'est certainement une très belle pensée que d'avoir suspendu le rachat d'un maudit à l'imagination passionnée d'une jeune fille. Tout le drame est traité d'une main sûre, avec une main directe. Chaque situation, abordée franchement, est le type de Senta porte en lui une grandeur surnaturelle et romanesque qui enchante et fait peur. La simplicité extrême du poète augmente l'intensité de l'effet. Chaque chose est à sa place. Tout est bien ordonné et de juste dimension. L'ouverture que nous avons entendue au concert du théâtre italien est lugubre, est profonde comme l'océan, le vent et les ténèbres. Je suis contraint de resserrer les bornes de cette étude et je crois que j'en ai dit assez, aujourd'hui du moins, pour faire comprendre à un lecteur non prévenu les tendances et les formes dramatiques de Wagner. Outre Rienzi, Le Hollandais volant, Tannhäuser et Lohengrin, il a composé Tristan et Isolde, et quatre autres opéras formant une tétralogie dont le sujet est tiré des Nibelungen, sans compter ses nombreuses œuvres critiques. Tels sont les travaux de cet homme dont la personne et les ambitions idéales ont défrayé si longtemps la bauderie parisienne et dont la plaisanterie facile a fait journellement sa proie pendant plus d'un an.